l'inauguration du Louvre arrive à grands pas, elle se fait dans un cadre, dans une journée assez particulière. On va en parler avec M. Guy Dubois, qui est donc secrétaire de l'association Mémoire du Fonds et qui écrit des pièces de théâtre en patois notamment. Guy Dubois, bonjour.
Bonjour.
Donc voilà, la Sainte-Barbe, c'est, j'allais dire, un rite. On peut préciser qui est Sainte-Barbe d'ailleurs.
Sainte-Barbe, d'abord, c'est la patronne des mineurs. Ça a toujours été un jour particulier dans le monde de la mine. C'est une fête chômée. Et autrefois, la Sainte-Barbe, la quinzaine de Sainte-Barbe, c'était quelque chose d'épouvantable. On appelait ça le grand saccage. C'est-à-dire que les mineurs travaillaient quasiment double, hein, ne remontaient pas, ils ne voyaient pas le jour d'ailleurs, hein, et de manière à ce que la quinzaine Sainte-Barbe soit importante. Hein. Bon. Et donc, c'était la fête, on avait un peu plus d'argent pour manger mieux, pour rhabiller les gosses. Bon. Et le jour de la Sainte-Barbe, les compagnies des mines organisaient une messe de Sainte-Barbe à laquelle assistaient les croyants. Et donc, on continue actuellement à commémorer cette fête des mineurs. C'est un devoir de mémoire. Et on célèbre de nouveau tous les ans la patronne des mineurs qui était présente au fond de la mine aussi. Hein, il y avait une statue dans tous les sièges du Nord-Pas-de-Calais. Il y avait aussi une statue de Sainte-Barbe au fond de la mine. Les mineurs saluaient Sainte-Barbe une fois arrivés au fond. Alors, il faut absolument continuer à célébrer cette tradition. Et depuis une dizaine d'années, on célèbre la Sainte-Barbe en ch'ti dans les églises du Nord-Pas-de-Calais. Et donc l'église en général est pleine parce que bon, moi je dis aux gens, c'est pas un spectacle, c'est pas du folklore, c'est aussi un devoir de mémoire, hein, il faut rappeler ça. Donc on fait appel aux chanteurs régionaux et aux poètes qui viennent déclamer des textes. Et en général, le curé fait un gros effort également pour intervenir dans notre langage traditionnel. En général, il demande qu'on traduise l'évangile en ch'ti. Quand il domine, quand il pratique le langage, le sermon est aussi en ch'ti, quoi. Bon. Alors là, le 30 novembre, ça se passe à l'église Saint-Théodore. C'est la cité neuve des mines de Lens. Hein. C'est à deux pas du Louvre. Et le prêtre, Xavier Langlais, est d'accord pour que le public vienne commémorer Sainte-Barbe étant porteur d'un symbole de la mine. Donc on demande que le public vienne, si possible, en tenue de mineur. Les femmes en trieuse avec un foulard et puis une veste, un bleu de travail, hein. Et sinon bon, un symbole de la mine, hein, porteur d'un symbole. Et puis là, on a fait également donc appel aux chanteurs régionaux. On aura Simon Collier, on aura Marie-Laurence Delisle, on aura Ch'ti Robert. Et puis on a également donc des gens qui vont dire des textes poétiques en patois sur la mine.
Alors c'est vrai que parmi les communautés les plus, j'allais dire, croyantes et catholiques, on retrouve dans notre région les gens d'origine polonaise.
Oui, on n'oublie pas donc les gens d'origine polonaise. Et donc, dans les Saintes-Barbes, il y a toujours également un ou deux intervenants qui rappellent cette émigration. Et là, cette année, à l'église Saint-Théodore, c'est Henri Dudzinski et puis son épouse qui vont intervenir et rappeler justement cette émigration et puis cette célébration. Pour eux, c'était Santa Barbara Et donc, bon, là, il y aura aussi un grand moment d'émotion parce qu'il va y avoir tout ce rappel du voyage de ces gens qui venaient de Pologne en train et qui étaient un peu parqués du côté de Toul et puis ensuite répartis dans les différentes compagnies minières. Donc là, il va y avoir un gros moment d'émotion aussi.
Alors, dans les communautés immigrées, il y a également, bien sûr, les gens qui venaient du Maghreb et notamment du Maroc ici. Est-ce qu'on peut imaginer ces personnes qui viennent à l'église ce jour-là?
On a déjà organisé des Saintes Barbes. Je me souviens d'une Sainte Barbe à Arnes, par exemple, où on avait un ensemble musical de Gallois, avec des mineurs du pays de Galles. On avait des Maghrébins qui disaient des textes également de leur pays, et puis des Italiens et des Polonais. C'était assez. on l'a déjà fait. Et donc, Noël, par exemple, cette année à Millennium, à Lens, c'est également un rassemblement donc, de Polonais et d'Italiens, et puis de Ch'tis. Dans l'église de Millennium, mais là on célèbre Noël.
Cette soirée un peu particulière au Millennium, donc bien c'est dans une église effectivement qui se situe route de Béthune.
Route de Béthune, et c'est le 23 décembre, c'est un dimanche. Et on réserve pas, et c'est gratuit. C'est dans le cadre de Noël heureux avec eux, ce qu'on appelait autrefois le Noël des hérités Voix du Nord.
Voilà donc un événement un peu particulier cette année. L'année dernière, il y avait déjà eu des messes en ch'ti aussi au moment de la Sainte Barbe. Là, on est dans le cadre de juste avant l'ouverture du Louvre. On va demander à André Noël, qui est président de cette association Mémoire du Fonds. Cette arrivée, cette ouverture du Louvre, bien sûr, elle se fait ce jour-là, c'est très symbolique.
Il y a beaucoup de symboles en fait dans l'ouverture du Louvre. Il y a bien sûr celle-là, qui vient s'enraciner, je dirais, dans une histoire locale importante. Mais il y a aussi des points communs dans le vocabulaire. La galerie du Louvre se situe au-dessus d'un certain nombre de galeries. C'est pas du hasard tout ça au niveau du vocabulaire. Et je pense que c'est tout à fait symbolique d'une histoire ou d'une continuité dans l'histoire de la culture d'une région. Les cultures ne s'excluent pas, les cultures se rencontrent et permettent à des gens de se confronter, de dialoguer, ce qui est relativement très important dans le contexte actuel.
Alors au-delà du Louvre, il y a aussi cette fameuse reconnaissance internationale de l'UNESCO pour que le bassin minier soit maintenant devenu une zone incontournable et protégée, un site plus que classé mais honoré.
C'est certainement une bonne nouvelle, mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'autres sites importants sur lesquels il faudrait se pencher dans l'histoire de la mine. Qu'il y ait cette reconnaissance mondiale, je crois que c'est un point fort. C'est important pour la région du Nord-Pas-de-Calais, mais il y a encore bien des choses qu'on peut faire reconnaître.
On peut peut-être citer quelques exemples ?
Oh, bah, par exemple, on va citer le chevalet la fosse 6 à Aisne, qui est un des chevalets en béton qui mérite. Mais le problème, c'est qu'il est sur un terrain privé, donc c'est un peu difficile. Bon. Ça a été un des points de l'action de Mémoire du Fonds, d'ailleurs, puisqu'on avait fait tout un petit dossier qui avait été signé par un certain nombre d'élus, bon, qui n'est pas forcément repris de façon évidente comme telle dans ce qui est retenu aujourd'hui au patrimoine mondial.
Je suppose que votre association, avec cette montée en charge, on va dire, du tourisme aussi, par rapport à ce bassin minier, cet ex-bassin minier, va être très sollicité.
Dans tous les cas, si on est sollicité, je pense que notre mission au niveau de l'association, c'est de continuer à faire le lien entre le passé de ce territoire et ce qui se passe aujourd'hui et l'avenir de ce territoire. Parce que, enfin, je pense que ça serait grave d'oublier d'où on vient, d'oublier qu'une bonne partie de l'évolution de l'industrie en France, notamment après la guerre, s'est faite dans le Nord-Pas-de-Calais à partir des mines. Bon, nous, on essaie de faire ça, de rappeler ça, bon, non pas par... je dirais par souvenir un petit peu mélancolique d'un passé, c'est pas ça, mais permettre à des gens de retrouver leurs racines, de retrouver ce qui les a construits, c'est pas par hasard. Et c'est ce qu'on essaie de faire quand on organise les circuits qu'on a appelés les routes du charbon, soit une route du charbon dans le Pas-de-Calais, soit route du charbon dans le Nord, mais on a aussi une route du charbon qui va jusqu'en Belgique où on peut encore descendre au fond d'une mine. Bon, et là, on organise pour des groupes constitués des journées. Là, récemment, il y a un groupe qui nous a demandé, par exemple, pour le 12 avril 2013, ils ont le groupe, ils s'occupent du car. Nous, on leur amène les personnes qui vont les guider pendant cette journée, donc Guy et Jean-Marie Minot, et on s'occupe de toute la logistique, je dirais, puisque dans la journée, systématiquement, il y a un moment de repas le midi où on laisse le temps aux gens de parler, d'échanger et de dire pourquoi ils sont venus. Et il y a des moments absolument sensationnels. Voilà, c'est comme ça qu'on pense faire le lien. Bon, mais il est bien évident que, passant pas loin du Louvre, on parlera aussi du Louvre, parce qu'on n'est pas sectaire, je dirais, à ce niveau-là.
Donc votre association a un site internet ?
Oui, en tapant Mémoire du Fond dans un moteur de recherche, effectivement. Une fois qu'on est sur ce site, on a, je ne sais plus, 6 ou 7 rubriques qui décrivent tout ce que fait Mémoire du Fond à travers plusieurs thèmes qui vont du devoir de mémoire ou de souvenir jusqu'à le soutien ou voire l'organisation, la production de spectacles en passant par les routes du charbon qu'on va trouver avec des diaporamas importants. C'est un site très vivant qu'on a mis beaucoup de temps à mettre en place, mais qui aujourd'hui est là et qui, à mon avis, vaut le coup d'être vu parce qu'on a une vision vraiment assez complète de ce que fait Mémoire du Fond.
Monsieur André Noël et Monsieur Guy Dubois, je vous remercie. Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.